Alors moi, la question que je veux vous poser, c'est vraiment, qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui pour vous est cher? Qu'est-ce qui vous est cher? Voilà.
Nous, qui avons tout, on est pour la paix.
Nous avons ensemble à construire une alternative au capital.
Votre mot préféré, sur Emmanuel?
Yalla, en avant.
Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir.
Tu m'en liras tant. Chut, ça va commencer.
Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons sur Tu m'en liras tant, vous êtes avec Jean-Baptiste et aujourd'hui, à distance, nous sommes en compagnie de François Skeuten, célèbre dessinateur de bande dessinée belge et scénographe également. François Skeuten, bonjour.
Bonjour.
Alors François Skeuten, vous êtes un artiste, un artisan même, belge reconnu internationalement, récompensé notamment du Grand Prix de bande dessinée d'Angoulême et fort de votre talent. Vous avez participé à de nombreux projets, conception de films, de pavillons pour des expositions universelles, de stations de métro, la création du Train World à Bruxelles. Et au cœur de cette crise, vous avez consacré votre crayon à la lutte contre la maladie en créant un dessin exceptionnel qui a été tiré à 300 exemplaires, exemplaires vendus au bénéfice des hôpitaux. Le cœur de votre œuvre, je ne me trompe pas, je pense, ce sont les Cités Obscures, une série de bandes dessinées dont nous allons parler, bien entendu. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous parlions un peu de vous en vous posant une première question. Vous êtes un artiste très investi dans la ville de Bruxelles. Alors ma première question sera, en tant qu'artiste, François Skeuten, quelle mission vous donnez-vous? Quel est le rôle que vous vous assignez en tant qu'artiste dans la cité?
Oula, c'est une question que je me pose souvent, en fait. À quoi ça sert? À quoi ça sert de raconter des histoires? À quoi ça sert de raconter des histoires si elles sont déconnectées du réel, si elles ne sont pas accrochées à un regard tendu vers ce que l'on vit, vers ce qu'on ressent, vers les lieux, vers les gens, vers les personnes qui nous entourent. Le dessin et le récit, pour moi, doivent être en flux tendu, comme ça, avec le monde. Et donc... ne connaissant pas grand, j'ai voyagé, mais je ne suis pas un grand voyageur, donc c'est sûr que la ville, les villes dans lesquelles je vis un peu à Paris, un peu à Bruxelles, du coup, ces villes prennent une importance et j'essaye de les décrypter, de les comprendre, de comprendre leurs rêves, leurs angoisses, et puis les comprendre leurs histoires, leur passé.
Votre rôle serait celui de quelqu'un qui essaie de décoder ce qui se passe dans une ville?
Oui, essayer de décrypter, mais des parts invisibles, des parts oubliées, faire ressurgir des dimensions qu'on a perdues.
Et ces parts oubliées et inconnues, les personnes qui découvrent votre œuvre en prennent connaissance parfois comme des choses totalement nouvelles. Il y a certainement des auditeurs de cette émission qui ne vous connaissent pas encore, qui vont vous découvrir. Qu'est-ce que vous voulez susciter chez ces personnes qui découvrent votre œuvre, qui découvrent vos bandes dessinées, les expositions que vous avez organisées, les scénographies que vous avez dirigées? Quel est le sentiment que vous voulez faire émerger dans ces personnes?
Je ne sais pas si je suis capable de savoir exactement, comment dire, j'essaye avant tout de me faire rêver moi-même. Je trouve qu'il faut d'abord essayer de prendre un petit peu l'enfant qu'on a en nous comme public. C'est-à-dire essayer de retrouver les émotions, l'émerveillement qu'on a et qu'on a eu. Et il y a des œuvres qui m'ont traversé avec tellement de bonheur qu'on essaye de retrouver ça, mais avec les outils d'aujourd'hui, avec les lieux, les espaces, les personnes, les acteurs d'aujourd'hui. Donc, ce qui me plaît, c'est brusquement d'être surpris. De me retrouver déstabilisé devant des choses, devant des émotions auxquelles je ne m'attendais pas. Et j'espère que ça transparaît, qu'il y a quelque chose qui passe à travers et que les gens retrouvent un peu ça, retrouvent un peu cette part qu'on traque, cette chose assez fragile qui, à un moment où brusquement, vous allez avoir une petite chose, une petite musique qui va perdurer. En vous.
Vous avez l'air de sous-entendre qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement touché. Et justement, c'est peut-être une question plutôt plus biographique. D'où venez-vous? Même plutôt, Après qui venez-vous? Qui sont les peut-être les grands artistes ou les grands auteurs qui vous ont inspiré pour maintenant faire les dessins, les expositions que vous faites?
Oh ben, alors là, on va y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'ils sont innombrables et ils sont extrêmement larges. C'est-à-dire que ça va autant dans la peinture, dans la sculpture, dans le cinéma et bien sûr dans la bande dessinée, mais dans le dessin, dans l'illustration. C'est tellement vaste. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était un formidable professeur et qui donc m'a vraiment formé, je dirais, qui a formé mon regard et celui de mes frères et sœurs d'ailleurs. On était très nombreux, on était 8 enfants, donc une fratrie qui était tellement forte qu'il est certain que mon frère a aussi joué un rôle, m'a aussi guidé. Donc j'étais partagé entre la formation de mon père très classique, très sur l'architecture, la peinture, et puis celle de mon frère beaucoup plus ludique vis-à-vis de la bande dessinée, vis-à-vis des arts moins nobles comme sans doute le pensait mon père. Et donc, ce côté un peu double continue à m'intéresser. Je dois dire que je suis autant ému devant un très grand tableau, de Rembrandt, que peut-être je peux l'être sur un dessin de Franquin. Et ça peut vous sembler irrespectueux pour Rembrandt, que je considère comme un génie, mais parfois d'un côté Franquin aussi.
Donc... Justement, vous faites partie de ce monde de la bande dessinée, vous êtes un dessinateur de bande dessinée reconnu maintenant internationalement, ce monde de la bande dessinée belge, dont tous les Belges sont très fiers, mais que finalement on connaît peu. Sur les plateaux télé, on invite plutôt des auteurs d'essais, des auteurs de romans. Est-ce que vous pensez qu'on boude la bande dessinée à l'heure actuelle ?
On ne la boude pas, je trouve qu'on ne la regarde pas bien. Pour l'instant, on regarde la bande dessinée surtout par les sujets abordés, parce que c'est un sujet qui correspond à l'époque, parce que voilà, ça interroge la société, mais on ne parle pas beaucoup de ce que c'est que ce médium, de l'écriture de la bande dessinée, du langage de la bande dessinée, de cet étrange osmose entre texte et dessin, de cette tension, et comment il y en a qui sont des véritables explorateurs de ce médium et qui l'interrogent et qui... Il y a des merveilles, autant dans le passé qu'aujourd'hui, il y a énormément de très belles choses. Et je trouve que c'est dommage d'avoir réduit effectivement le regard. Mais ça, c'est un petit peu toutes les époques comme ça qui s'aveuglent ou qui ont une espèce d'angle de vue beaucoup trop restreinte pour moi, beaucoup trop. Et bon, par exemple, en ce qui concerne le dessin réaliste, moi je suis quand même inscrit là-dedans, parfois je le regrette d'ailleurs, j'aurais bien aimé être un dessinateur qui ait plus large palette, mais toujours est-il que je m'inscris quand même dans un dessin dit réaliste. Je trouve que ce dessin-là, le temps qu'il demande, le travail qu'il demande, ne sont plus du tout des choses qui intéressent pour l'instant profondément ni les critiques ni le grand public. On le consomme de la bande dessinée, on l'apprécie, on est heureux. Elle a perdu son côté un petit peu marginal sur les valeurs des grandes cultures. Elle a pris une place tout à fait honorable, mais elle a perdu le regard d'un Umberto Eco sur la bande dessinée, d'un Alain René, de Freneau de la Ruelle. Ils avaient un regard d'une perspicacité. Ils décryptaient ce langage avec une... Et quand j'ai découvert comment Alain René regardait une bande dessinée ou comment bien d'autres, au début des années 70 et des années 80, j'étais très exalté de voir que ce médium avait autant de richesses. Et ça, c'est vrai, ça, je trouve qu'aujourd'hui, on en est loin. On a réduit un petit peu, on a réduit l'ambition du regard sur ce médium.
Et donc votre travail qui consiste non seulement à écrire des bandes dessinées, mais aussi à organiser des espaces. Je pense à la Maison Autrique, je pense à Train World, aux expositions que vous avez faites à Paris. Tout ce travail, ce serait du coup une tentative pour donner au dessin que vous faites une place qui fera en sorte qu'il sera à nouveau regardé comme une œuvre d'art, comme quelque chose qui doit nous toucher, qui se vaut par lui-même et pas comme simple divertissement.
Non. Je n'ai pas ça du tout en tête. Non, moi, quand je commence un projet, c'est toujours qu'est-ce que je raconte, quel est le récit que je vais raconter, comment je vais prendre les gens par la main, comment je vais Je vais essayer de les émerveiller. Je vais tout faire pour les détacher d'un ensemble de banalités. Comment réveiller leur regard, comment les surprendre. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Le trainwreck, c'est 10 ans de ma vie où j'ai plongé dans ce monde ferroviaire. Et d'ailleurs, j'avais toujours dit aux responsables de la SNCB, donc la SNCF belge, ce sera un opéra ferroviaire pour casser un certain nombre de réflexes, un certain nombre de stéréotypes qu'on peut avoir sur les musées. D'ailleurs, pour moi, je considère que le trainwreck n'est pas vraiment un musée, mais plutôt un spectacle avec énormément des machines considérables qui ont une puissance, qui sont des merveilles. Hein. On a la chance d'avoir vraiment une collection tout à fait unique au monde, puisqu'on était un des premiers acteurs du monde ferroviaire. Et donc, voilà, j'avais cette chance magnifique d'avoir ces objets uniques. Et donc, comment leur rendre toutes leurs dimensions? Comment en faire des bijoux? Comment les ciseler par la lumière, par le son, par l'image dynamique? Comment faire en fait qu'elles soient vivantes, ces machines, comme elles étaient à l'époque? Mais elles l'étaient parce qu'elles bougeaient, parce qu'elles se déplaçaient. Aujourd'hui, elles sont immobiles. Mais par contre, on peut les rendre vivantes autrement. On peut, et ça, avec les technologies d'aujourd'hui et la beauté qu'elles ont en elles, eh ben, on crée quelque chose qui tient uniquement à ce lieu-là. Ça tient toujours, pour moi, à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'on ne peut pas faire ailleurs? Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte et que peut-être j'ai le droit de le raconter, parce qu'il y a des tas de domaines sur lesquels je me sens totalement incompétent, et il y a des tas de domaines où je me dis ben, il y a des gens beaucoup mieux placés et beaucoup plus appropriés. Et puis, il y a des moments où on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose que je peux faire, il y a peut-être quelque chose que je peux apporter avec cette équipe, avec ce monde, dans ce monde-là, je peux peut-être apporter un petit quelque chose, et c'est ça qui, pour l'instant, m'intéresse beaucoup.
Donc, il y a un lien très fort avec l'objet, avec le lieu que vous essayez de sublimer, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot. Et parmi ces lieux, il y a le lieu de Bruxelles, avec la maison Autric, avec la maison Cauchy, tous des lieux comme ça qui vous inspirent énormément. Qu'est-ce que Bruxelles a de si particulier?
C'est tellement compliqué de parler de sa ville, et surtout d'une ville comme Bruxelles, parce qu'elle est tellement multiple, elle est tellement, pour moi, par certains côtés, chaotique. Mais ce qui m'intéresse dans cette ville, justement, c'est qu'elle est, par ses multiples dimensions, elle est profondément, d'ailleurs, multiculturelle, mais elle est aussi, avec toutes ses couches, toute son histoire assez bousculée. Hein. Il y a des parties françaises, espagnoles, il y a des tas de dimensions, il y a des parties hollandaises. C'est ça qui me plaît, en fait. C'est ce chaos, par certains côtés, qui nous raconte le monde dans les beautés et hélas aussi dans les contradictions, dans le manque de cohérence, ce bordel général que j'aime, qui pour moi est un magnifique miroir du monde. Je veux dire, j'aime bien cette ville parce que je me sens pas du tout détaché. Je sens que très vite je suis profondément en Afrique, je suis profondément en Turquie. Bon, c'est le cas de beaucoup de villes, mais à Bruxelles, il y a cette particularité que tout ça s'enchevêtre au cœur même de la ville. Donc, c'est très rare d'avoir toutes ces dimensions qui s'inscrivent dans la ville historique.
Et puis, il y a aussi un lien entre, très intense, j'ai l'impression, esthétique, entre vos dessins et, par exemple, les bâtiments Art Nouveau de Bruxelles, les façades qu'on va retrouver aussi dans votre œuvre. C'est aussi quelque chose qui vous inspire beaucoup, ce foisonnement de cette période particulière de la première moitié du XXe siècle, l'art nouveau, l'art déco, c'est quelque chose qui vous a beaucoup inspiré aussi dans votre esthétique?
Oui, bien sûr, c'est évident que c'est une ville qui a eu sans doute les plus belles architectures art nouveau qui soient, avec ce personnage extraordinaire qui est Victor Horta. J'ai encore des projets d'ailleurs autour de son architecture, parce que je reste... En fait, j'arrive jamais à quand je commence à travailler, j'arrive plus à m'en détacher. Après, je serai toujours lié à la maison Trick, toujours lié au Train World et toujours lié à la fascination que j'ai pour Horta, mais je suis pas le seul, heureusement. on est beaucoup, et c'est un architecte évidemment a complètement transcendé ce style Art Nouveau, mais avec une intelligence, et en plus je trouve qu'on le connaît mal, on apprécie ça évidemment très rapidement, la beauté de, je dirais, des espaces qu'il a créés, mais on ne voit pas l'intelligence de ses plans, la façon dont la lumière circule. C'est un ingénieur absolument remarquable, mais c'est surtout quelqu'un qui réinvente l'espace de la maison et comment il transcende tout ça par son intelligence, par les technologies de son époque, par une compréhension nouvelle qui fait que ces maisons sont loin d'être simplement un style. Elles sont vraiment des petites révolutions et à chaque fois des prouesses où il montre une véritable vision. C'est ce qui m'intéresse chez l'architecte. C'est comment, à un moment donné, l'histoire qu'il raconte est multiple, une fois de plus, est complexe et multiple. Et parfois même, dont le cœur même est un peu caché. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur Tu m'en liras-t'en avec Françoise Keuten et Jean-Baptiste, et nous avons parlé de Bruxelles, nous avons parlé de la bande dessinée. Parlons maintenant du cœur de votre œuvre. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est à la place, si c'est à cette place-là dans votre œuvre, mais parlons des Cités obscures. Il s'agit d'une série de bandes dessinées publiées chez Casterman qui se déroule dans un même univers assez étrange, assez onirique. Le lien entre les différents épisodes n'est pas tant les personnages que les lieux, justement, dont nous avons un peu parlé. Ce qui réunit l'ensemble, ce sont ces cités obscures. Ces cités, comment est-ce que vous les décririez?
Ouh là là. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut me demander. Moi, ce qui était formidable avec Benoît, qui est toujours formidable parce qu'on est toujours très proches et on continue. Là, on est en train de travailler avec Jacques Durieux pour une version couleur de La fièvre d'Urbicant. Donc, on travaille un petit peu sur le côté patrimonial, on n'a pas de projet de bande dessinée, mais par contre, on continue un petit peu à réinventer ce monde, parce que c'est un peu un monde, c'est plus qu'une série de récits, c'est un monde qu'on a essayé de cartographier, d'explorer avec une énorme part d'insouciance et de plaisir. Et alors, quelque chose qu'on oublie souvent avec Benoît, c'est qu'on s'est connus quand on avait 12 ans, mais on a gardé un petit peu la dimension un peu ludique, un peu jubilatoire, de raconter comme un enfant se raconte des histoires. Et donc, je vous dirais que je ne suis pas le mieux placé que pour les décrire. Je suis peut-être pas mal placé pour les faire éventuellement, et encore, encore il y a des fois où parfois je ne sais pas si ça correspond à un état d'esprit. On a eu tous les deux l'absolue conviction que nous ne voulions pas de héros. Nous voulions que chaque livre soit autonome. C'est marrant parce qu'on était très jeunes, on avait 22 ans ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment au cœur de nos intentions, c'était que chaque album soit autonome. Et je vous dirais même qu'ils sont plus qu'autonomes. Parfois, ils sont l'un contre l'autre, c'est-à-dire ils luttent presque contre le précédent dans le style, dans les partis pris. L'affaire d'Urbicante, qui était un livre très, très, très austère, très inspiré par le Bauhaus, était le contraire d'un livre comme Les Murailles de Samaris, où il y a l'art nouveau, où il y a la couleur, il y a toute une dimension qui était beaucoup plus chatoyante. Et donc, chaque livre, comme ça, était comme une espèce d'exploration et en même temps presque de rejet du précédent, comme s'il fallait brûler ces vaisseaux pour avancer un peu plus. Et c'était très particulier, cette conviction. Je n'arrive pas très bien à comprendre exactement pourquoi. Peut-être parce qu'on voyait aussi nos aînés qu'on admirait, comme Franquin, comme Hergé, peut-être un peu prisonniers aussi de leurs personnages, qui ont eu tant de talent à incarner, mais qui, à un moment donné, le corps évolue. Et curieusement, c'était quelque chose qui peut-être a influé sur cette espèce d'obsession d'être à chaque fois devant la page blanche, en fait.
Vous ne vous sentez pas prisonnier de votre univers, parce qu'il y a quand même une patte très claire qu'on retrouve dans La Cité Obscure, mais qu'on a aussi retrouvée dans Le Dernier Blake et Mortimer, Le Dernier Pharaon. Vous avez une griffe très particulière qu'on reconnaît quand on vous lit. Vous ne vous en sentez pas prisonnier?
Ben justement, si j'avais fait un personnage, quelle horreur, ça aurait été encore pire, comme vous dites. Parce que déjà, effectivement, le problème de tout auteur, c'est qu'il est comme dans un immense entonnoir, que son système se resserre. Donc, s'il n'est pas avec la volonté farouche de casser un certain nombre de réflexes, le système va l'étrangler. Ça, c'est quelque chose qu'on a senti très vite, c'est qu'il fallait... Et même en essayant de le briser à chaque fois, vous voyez, vous dites, oui, bah en fait, grosso modo, bah, ça sent que c'est... Oui, bah oui, on ne peut pas complètement... J'aimerais bien parfois être un autre dessinateur, être un meilleur dessinateur, être dans un style complètement différent. Alors bon, il y a comme ça des... Je pense qu'effectivement, la tour, ce n'est pas du tout la Fiat Urbicante ou la théorie du grain de sable. Pourtant, à chaque fois de vouloir être différent, on se rend compte quand même qu'on commence à sentir le bout de la carte.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'il faut changer de médium et qu'il faut. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter la bande dessinée parce que je me disais, il y a le danger vraiment de commencer à drôlement se répéter, quoi.
Voilà. Là, maintenant, vous ne travaillez plus que sur des scénographies?
Non, je travaille, je dessine énormément. D'ailleurs, je n'ai jamais autant dessiné là, depuis le confinement. Je n'ai pas levé la tête. C'était une façon sans doute aussi de retrouver des sensations un peu fondamentales. J'arrête pas de dessiner, mais avec des distinctions différentes que celles de la ciné, c'est-à-dire des livres d'illustration, des projets pour le cinéma, des projets pour la scénographie, pour des musées, des choses comme ça. Mais pour l'instant, la bande dessinée n'est plus dans mes projets futurs.
Alors, j'aimerais bien vous poser une question qui me brûle, parce qu'évidemment, les cités obscures, ce sont des villes immenses. Il y a beaucoup cette thématique d'un individu qui se retrouve perdu d'une certaine manière au milieu d'une ville démesurée, dont il ne comprend pas les tenants et aboutissants, où il ne sait pas où se situe l'autorité, etc. J'aimerais vous poser cette question, c'est peut-être un peu une question abstraite, mais est-ce que vous pensez qu'il existe une relation entre la ville et l'individu? Et si oui, est-ce que vous pensez que cette relation soit conflictuelle?
Votre question est un peu trop ample ou trop large pour moi, dans le sens où je n'ai jamais cherché à essayer d'avoir une vision morale ou comment dire, essayer de donner au lecteur des clés que je ne possède pas. Mm-hmm. Ce que je crois le plus intéressant, c'est de traverser ces villes avec intensité, en essayant de donner un sens, en essayant de comprendre comment fonctionne effectivement d'une façon parfois un peu souterraine. Une ville doit être, on en a parlé, doit être un petit peu décryptée, mais pas seulement décryptée sous forme voilà, d'un regard philosophique ou urbanistique, mais de décrypter sous forme de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ressent. Et pour ça, les écrivains, les photographes, les cinéastes font des choses formidables. Et la bande dessinée a aussi un rôle à jouer là-dedans, parce que, évidemment, le dessin est déjà une transcription. Donc, et par le langage même, par le compartimentage, par toutes ces cases qui découpent, qui structurent, qui, par certains côtés, architecture déjà, par la forme même de la planche, c'est déjà un écho à l'architecture, au plan de la ville. Donc, je trouve que la bande dessinée est un outil très intéressant pour parler des villes, mais pas seulement des villes, d'ailleurs, parce que ce serait dommage de réduire les cités obscures à des tas de l'enfant penché. C'est vraiment pas le sujet, et l'ombre d'un homme non plus. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est la tension évidemment qu'il y a entre ces lieux et l'humain. Oui, ça c'est quelque chose qui nous passionne. Qu'est-ce qui se passe, quel lien troublant, formidable et en même temps inquiétant se tisse.
Parce qu'à l'heure actuelle, la ville est quand même beaucoup attaquée, parce qu'on la considère comme un espace violent où l'individu est systématiquement en état de choc permanent, on impose un rythme, ça impose un coût, c'est un espèce d'espace artificiel qui détruit la nature d'une certaine manière. Donc on a un peu cette vision de la ville comme étant un espace profondément hostile. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée-là ? Parce que j'ai quand même l'impression que dans les cités obscures, les villes sont des lieux, donc comme vous le dites, où il y a des choses cachées, des choses à décrypter, des opportunités, mais peut-être que l'humain actuel, au milieu de la ville, sont que c'est impossible pour lui de décrypter justement ce qui s'y passe, puisque la ville, l'enferme et il est incapable d'ouvrir vraiment son regard pour l'explorer.
Oui, oui. En même temps, moi, ce qui m'intéresse dans les villes, c'est évidemment tout ce qu'on ne voit pas. Et tout ce qui est indicible, des tas de petits détails qui oubliés, puis des tas de choses qui... Enfin bon, voilà, c'est le dessin vous oblige à penser, à mettre des avant-plans. Et des... J'aurais du mal à répondre d'une façon correcte à votre question, parce que je crois que c'est pas tout à fait ma place. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de m'immerger, c'est de faire en sorte que, il y a un moment donné, il y a une telle charge d'émotion en moi qui fasse que le dessin s'impose, parce que c'est avant tout par là que j'arrive à comprendre, en fait. Le dessin me permet de décrypter, en fait, les choses. Sinon, je suis assez aveugle. Je me sens et assez idiot. Et en fait, quand je dessine, je commence à comprendre un peu pourquoi. Un tout petit peu. Parce que je pense même que je ne comprends pas tout, et que c'est seulement plus tard que je me dis, tiens, après tout, là, c'était peut-être pas tout à fait idiot, ou alors je suis passé complètement à côté de la plaque, ce qui arrive aussi. Mais le dessin, pour moi, me permet vraiment de comprendre, en fait.
Donc, mais vous voulez en faire un lieu de compréhension, mais pas spécialement de métamorphose. Parce que je pense, par exemple, à l'exposition que vous avez faite, qui est dans la bibliothèque de Louvain-la-Neuve, et le fait est que je vais souvent dans cette bibliothèque, vous avez dessiné des villes qui se transforment comme ça au fur et à mesure, qui en fait se vivent comme une plante. Ouais. Est-ce que pour vous, ça, c'est une description juste d'un processus quelque peu naturel, ou est-ce que c'est une envie, quelque chose que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez avoir des espèces de villes-organismes comme ça qui arrivent à mieux s'intégrer dans la nature?
Je trouve franchement qu'aujourd'hui, il y a un manque terrible d'imaginaire dans les villes. Je trouve qu'on ne laisse pas la place à des dimensions de rêve. Et donc, oui, Oui, je trouve qu'il faut redonner place à ce que faisaient d'ailleurs magnifiquement à une époque. Les façades étaient ornementées, il y avait des sculptures. Bon, je ne dis pas qu'il faut refaire ça, loin de là, mais il faut qu'on retrouve cette dimension par le végétal, par des artistes. Il faut que les villes soient des lieux d'imaginaire. Et je trouve qu'on a inscrit les lieux dans des contraintes terriblement liées à la rentabilité, à l'efficacité. Il y a un manque terrible là-dessus, très, très, très cruel. Alors, il faut profiter, il faut se réapproprier ces villes et parfois les tags, des tas de choses, des tas d'artistes comme ça viennent nous ramener, s'immiscer dans les... Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour briser une machine aveugle qui nous a imposé une rationalité. Les lieux doivent être porteurs de mystères, de choses même troublantes. C'est à cela qu'elles vont trouver leur véritable identité. C'est terrible de penser qu'on les va nettoyer de ce qui faisait la beauté, de ce qui a fait que les gens avaient du plaisir à aller dans les villes. C'était toute une série d'anecdotes, d'éléments, justement d'éléments qui détonnent, qui sont là surprenants. Et ça, on a enlevé ça, on l'a nettoyé et on le paye cher aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un sentiment troublant qui se crée chez beaucoup de citadins, c'est qu'il y a un malaise parce que l'homme n'est pas constitué n'a pas son esprit prêt à affronter une rationalité aussi sévère.
Nous sommes sur Tumon les Ratons pour celles et ceux qui nous rejoignent. Nous avons discuté des cités obscures, nous avons discuté de Bruxelles, nous avons discuté des villes. Et j'aimerais continuer sur ce sujet de la ville. Vous dites que la ville a une rationalité qui empêche la créativité. Alors ma question évidemment sera, mais comment est-ce qu'on peut créer des espaces de créativité? Est-ce que vous pensez par exemple à des nouveaux mouvements artistiques comme le Beauce ou l'Art Nouveau que vous avez cité? Est-ce qu'il faudrait une nouvelle effervescence qui nous aide à repenser la ville? Est-ce qu'il faut sortir de notre attachement au patrimoine qui peut-être immobilise les espaces?
Toute l'histoire des villes est bousculée par des mouvements, par des changements de regard, de courant. Et c'est heureux, c'est ça. C'est en cela qu'il y a un énorme plaisir de voir les villes, d'ailleurs. C'est de sentir toutes ces couches. Ces confrontations, et plus d'ailleurs, elles sont diverses et en même temps, elles sont respectueuses, parce que le problème d'une ville, c'est qu'il faut en même temps qu'elle avance et en même temps qu'elle reste très organique, qu'elle garde une échelle, qu'elle pense à tout moment à respecter aussi son histoire. Et c'est très complexe, hein, je suis bien incapable de, d'avoir un regard d'urbaniste ou de politique.
Donc si je nage un peu dans tout ce que vous dites, ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que ce à quoi vous appelez, à partir de votre propre perspective de dessinateur, c'est finalement qu'on devrait retourner dans les villes, bon, c'est difficile en temps de confinement, et les dessiner pour essayer de les comprendre. Ce serait ça que vous...
Oh ben non, dessiner, parce que moi, c'est mon outil, mais je pense qu'il y a des gens qui vont faire des tas de choses avec leurs propres armes, avec leur propre imaginaire. Il y a mille et une façons de se réapproprier les villes. Oui, il faut revenir vers les villes. Je ne pousse pas du tout les gens à les abandonner. Il y a des gens qui préféreront, bien sûr, les campagnes, et c'est formidable, ils auront sans doute un rôle. Et aujourd'hui, c'est vrai, on doit réinventer ce monde-là, comme on doit réinventer le fait de vivre en ville. Hein. On est devant d'extraordinaires challenges aujourd'hui, mais ce sont des opportunités aussi pour repenser la façon de vivre en ville. Et oui, il y a énormément de travail, mais ce travail, on ne doit pas le laisser aux seuls urbanistes, aux seuls architectes, aux seuls politiques. On doit faire entrer des poètes, on doit faire entrer des philosophes, on doit faire entrer des peintres, et on doit tendre tout ça dans de nouvelles transversalités. Je trouve qu'il y a une pensée qui était beaucoup trop compartimentée. Il faut décloisonner les regards. Et je travaille sur des projets, là, je suis passionné de voir que, justement, j'entre en dialogue avec des scientifiques, avec des industriels, avec des philosophes. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de briser un certain nombre de couloirs dans lesquels on nous a mis. Et je n'aime pas les couloirs, et même en bande dessinée, par certains côtés, Benoît et moi, mais avec mon frère ou avec Claude Renard, on a à chaque fois essayé de briser un certain nombre de réflexes, avec beaucoup de maladresse d'ailleurs parfois, avec beaucoup d'insouciance, enfin, mais justement pour essayer d'explorer, parce que il n'y a rien de pire que de penser. J'ai toujours pensé, par exemple, que je ferais jamais j'ai toujours pensé que la bande dessinée ne pouvait pas être mon seul moyen d'expression, parce que d'abord j'étais convaincu que ça n'allait pas durer, ce en quoi j'avais peut-être pas tort, même si pendant 40 ans j'ai eu la chance de faire ce métier d'une façon, je dois dire, extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. Benoît et moi, on a eu vraiment beaucoup de chance, parce qu'on vit là, on vit une crise pour le livre terrible, et je suis très inquiet sur les conséquences pour les jeunes auteurs, pour les libraires, pour les petits éditeurs. Ça va avoir des conséquences considérables, donc je suis très très heureux. Enfin, je sais la chance qu'on a eue de profiter d'une période où il y avait des journaux, enfin bon, il y avait beaucoup moins de livres, donc les auteurs étaient par certains côtés protégés, étaient mis en avant. Donc tout ça fait que je sais qu'il va falloir s'adapter, et il va falloir surtout à chaque fois se réinventer. Je crois qu'avec Benoît, mais aussi avec ce que j'ai fait seul, et avec ce que fait mon frère aussi, c'est s'adapter et en même temps en continuant à rêver, en essayant de rester le plus proche de la petite musique qu'on a en soi.
Est-ce que vous ne pensez pas que un des problèmes à l'heure actuelle maintenant, c'est qu'on a une peur, bien sûr, qui s'est installée avec le coronavirus, qui fait qu'on se confine. Bon, on est obligé parce qu'il y a un intrus dans la ville. Mais le réflexe qui semble se dissimuler derrière ça, c'est une forme de peur qui peut-être nous mènerait à cloisonner l'espace de la ville, mais de manière générale, cloisonner notre capacité à réfléchir ou à penser un autre espace. Et donc ma question, ce serait un peu, bon voilà, c'est peut-être une question très abstraite et très ouverte, mais contre ce réflexe apeuré, puisque dans les cités obscures, et en fait particulièrement dans le dernier Blake et Mortimer, la ville de Bruxelles est abandonnée, mais au moment où elle est abandonnée, il y a quand même une petite couche, une petite partie de la petite communauté qui se crée, qui réhabite la ville. Et donc j'ai l'impression que pour vous, une ville abandonnée, si je décrypte vos œuvres, semble être une opportunité, puisqu'on peut la réhabiter différemment peut-être.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, la première chose, c'est la peur. D'ailleurs, le dessin que j'ai fait pour le journal Le Soir, c'était vraiment un dessin sur ce sentiment que j'ai ressenti dans le regard des gens, c'est cette peur. Alors cette peur, ça c'est vraiment pour moi ce qui m'énerve le plus, ce qui me fâche le plus, parce que je pense que cette peur, elle a été en partie fabriquée. Elle a été par des propos, par un climat, par des médias qui tournent en boucle sur le nombre de morts, etc. Et c'est cette peur, ce n'est pas un bon outil. C'est pas ça qui va nous faire avancer sur la compréhension, sur la façon de nous protéger, sur la façon de vivre avec ça, parce qu'après tout, maintenant, tout le monde le sait, on va devoir vivre et de nombreux mois, et que peut-être, d'ailleurs, ça reviendra, enfin bon, d'autres types d'épidémies reviendront. Donc, il faut savoir remettre les choses à leur place, vivre aussi avec la fragilité de ce monde et la fragilité de la vie. Il y a peut-être aussi une forme d'arrogance de penser que nous sommes immortels. Donc moi, j'entre bientôt dans les âges dits, entre guillemets, à risque, mais je ne veux pas vivre avec la peur. Là, je vous dis tout de suite, je préfère m'en aller, mais je pense qu'il faut vivre avec l'envie d'abord. Et l'envie, je crois qu'on peut assumer ses contraintes, on peut assumer ses précautions tout en n'ayant pas peur. Donc cette peur-là, c'est vraiment pour moi une des choses qui me fâche le plus, parce que je peux comprendre qu'on l'ait, mais je ne peux pas comprendre qu'on entretienne ça. Donc je trouve que là, il y a une part, entre guillemets, pour moi, de manipulation qui sont… Je ne stigmatise personne. Je dis qu'à un moment donné, le système s'affole et crée ce sentiment-là. Et ça, il faut lutter contre ça. Et remettre ces choses-là à leur place pour que justement on garde le désir de l'autre, même avec des précautions. Alors, ce qui est amusant avec la comparaison que vous faites avec les récits, moi je ferais d'abord la comparaison avec l'album La fièvre du Rubicon. Je ne sais pas si vous relisez La fièvre du Rubicon, mais sur le rapport à la pandémie autour du Covid-19, c'est assez amusant de relire cette histoire. Il y a beaucoup d'échos. Parce qu'aujourd'hui, Jacques Durieux est en train de faire cette mise en couleur et Benoît et moi, on s'est beaucoup amusés à relire cette histoire. Il y a presque 40 ans qu'on l'a conçue. Donc, c'est presque quelqu'un d'autre qui l'a réalisée. Donc, on la regarde avec une certaine forme de… comme si on la lisait pour la première fois, presque, parce que je n'ai pas mon nez dans mes histoires. Et ben là, il y avait vraiment des points communs, mais c'est vrai qu'il y a aussi pour moi des points communs avec Le Dernier Pharaon, parce qu'on voit un Bruxelles abandonné, totalement vidé. On remet, Mortimer, en fait, réussit à remettre le monde à zéro, à faire un reboot. Hein. Et ça, c'est quelque part, parfois, la tentation qu'on a face à ce qui nous arrive. Est-ce que nous allons être capables de se reposer des questions, de repartir avec de nouvelles valeurs? Donc, c'est vrai que les albums et les récits sont là pour évidemment interroger. C'est très amusant de les relire avec ce qu'on vit. C'est en cela que, d'ailleurs, que je trouve que la fiction est à ce point nécessaire. Mais bon, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question.
Non, si, parce que ma question, finalement, c'était ça, c'était… Puisque abandonner la ville a l'air d'être une opportunité, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, c'est un peu bizarre de parler comme ça, bien sûr, parce que évidemment l'avenir est incertain, mais de retrouver une autre manière d'habiter la ville. Et ça me paraît très abstrait, parce que tous ces thèmes, en fait, de habiter la ville, recréer le mystère, des espèces de pulsions artistiques, tout ça, comme un simple citoyen, on se sent un peu désemparé, on se dit, mais comment moi je peux faire pour faire de la ville un espace de vie? Alors il y a plein d'initiatives, on essaie d'organiser des festivals qui se passent dans les villes, on essaie d'organiser des moyens de connaître les villes. Mais ce serait peut-être un peu ma question pour clôturer cette interview, c'est finalement en tant qu'individu qui habite la ville de Bruxelles, qui la connaît peu puisqu'on la regarde peut-être pas assez, que faire pour en faire un espace, non pas de peur ou de retranchement, non pas un espace de confinement en fait finalement, même si évidemment je connais la nécessité du confinement actuel, non pas un espace de retranchement mais un espace d'ouverture, de connaissances, de partage. Bruxelles est quand même une ville, même si elle est multiculturelle, qui est avec beaucoup de ségrégation entre différents types de quartiers, pauvres et riches, avec des nationalités souvent coincées à certains endroits de la ville. Donc, recréer un mélange, en refaire un organisme vivant, comment, à l'échelle individuelle, peut-on arriver à faire ça?
Écoutez, repenser la ville, évidemment, bien sûr, on ne peut que suivre vos c'est une évidence. En même temps, là, sur ce qui nous est arrivé, je suis vraiment fâché de voir un petit peu ce qu'on a raté déjà. Déjà, pour moi, le fait qu'on ait fermé les librairies et qu'on ait, après, au fur et à mesure, autorisé toute une série de magasins, je comprends tout à fait, et de lieux à ouvrir, comme les Bricots et je ne sais pas tout quoi, et que les librairies, qui pour moi sont, comme les lieux de culture d'ailleurs, comme beaucoup de lieux de culture, sont absolument indispensables. Pour moi, la culture est aussi indispensable qu'un Bricot Center ou peut-être même qu'une boucherie, surtout aujourd'hui. Eh bien, je trouve que on a loupé là une occasion formidable de mettre la culture, de mettre ses valeurs et ses nécessités à leur juste place. Je suis très fâché contre le syndicat des libraires qui se sont rétractés en disant « mais non, on ne peut pas ouvrir les librairies ». Si, il fallait tout de suite dire « on va trouver des solutions », comme d'ailleurs la plupart des libraires, des petites librairies trouvent des solutions aujourd'hui, ils s'arrangent. Et c'est formidable. Et le lien qui crée, comme des restaurants qui s'arrangent, j'adore quand il y a des restaurateurs qui trouvent des solutions et qui, je trouve ça formidable de générosité. Et puis ils gardent un lien avec leurs clients et c'est formidable. Et les libraires, certains libraires ont très vite réagi, ont réussi. Mais il y a eu des retraits, il y a eu des replis corporatistes que j'ai trouvé extrêmement néfastes sur les valeurs qu'en plus les libraires défendent. Donc, oui, il ne faut pas louper. On a un moment un peu rare, on a un moment clé, et chaque chose prend une valeur, prend un sens particulier. Et donc, oui, c'est une occasion de repenser certaines choses, mais dans un ensemble de décisions, elles sont porteuses de beaucoup de sens, et elles ont un poids. Fermer les librairies, c'était pour moi extrêmement grave. Mais comme il y a des... Je crois qu'on peut inventer même des spectacles. On pourrait bloquer des rues et qu'on ait des spectacles au milieu de la rue ou les balcons. Des balcons, on verrait le spectacle et on trouverait des moyens. C'est quand même mieux que l'État dépense en permettant à des artistes de faire des créations au milieu de la ville plutôt que de devoir les sauver de la misère. Et donc, oui, on a des occasions formidables aujourd'hui, des opportunités pour remettre la culture, pour remettre la créativité au cœur de la ville. Et parce que la ville est un lieu de rassemblement. Les balcons, c'est comme un théâtre. Le cœur, quand les gens applaudissent à 20h, bon, pourquoi pas? C'est un rythme maintenant qui est entré. Je crois qu'hélas, j'ai bien peur qu'on oublie les infirmiers aussi vite. Et c'est ça qu'il faudra penser à eux au moment où on aura oublié ce rythme du 20h. C'est à ce moment-là qu'il faudra les défendre plus que jamais, mais pas que d'ailleurs. Et la culture c'est un formidable lieu de créativité, mais qui peut aujourd'hui se réinventer aussi avec des contraintes. Donnons-nous si on nous explique bien les contraintes, on commence à les connaître. Mais on doit nous donner aussi des nouveaux lieux pour pouvoir réinventer cette dimension, pour moi, indispensable.
C'est sur cet appel à défendre la culture et la créativité que cette interview se termine. Merci beaucoup, Françoise Keuten.
Merci à vous.
Pour votre disponibilité. Nous invitons tous nos auditeurs à aller voir sur le site de Casterman tous les albums qui sont sortis dans la collection des Cités Obscures et d'autres. À aller visiter Train World et à suivre le travail de Françoise Keuten. Merci beaucoup. Oh! Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be?
cover me.
You cover me.
I appreciate it.
A mystery.
It's amazing how
your patience with me, God will never leave.
You don't give up on me.
Don't ever leave.
Help me.
Help me to see like you.
Like you.
No matter what I go through,
hey.
Everything's working for my good for a way.
Let me tell you what he does.
He saves the day.
And he will.
He will come through.
Hallelujah.
Keep on now, that's not what superheroes do.
Not real superheroes.
Don't pray to love.
Like this
makes my heart beat.
And I promise you,
all I want to do is make you proud of me.
That's why
I don't want to love nobody but you.
Yeah.
I don't want to love nobody but you.
Yes.
I don't want to love nobody, love nobody but you.
I searched all over.
I don't want to love nobody but you.
You.
I don't want to love nobody but you.
That's right.
I don't want to love nobody, love nobody but you.
Yes. And the church sang, come on. Loving you
will be the death of me.
It sounds crazy, don't it? Hey.
That's how it's supposed to be.
Let me tell you what it means.
More of you, less of me.
That's why
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Father,
I don't wanna love nobody but you.
I really mean it this time.
I don't wanna love nobody but you.
Jesus,
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Let me tell you what it does.
He saves the day.
Come on.
He will come through.
He will let you down, but
keep on now, that's not what superheroes do.
See, I will never find
no way to love.
A love like this
makes my
the Savior.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Yes.
I don't wanna love nobody but you.